plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, j'ai comme Godard, Jean-Luc Godard, chapitre 2, sabotage, maoïsme et vidéo, avec David Farou, Jean-Paul Fargier et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Alors que se déploie depuis hier et jusqu'au 20 octobre au théâtre Nanterre-Amandier son nouvel opus, le magnifique et passionnant Livre d'images, nous ouvrons, nous, aujourd'hui, le deuxième chapitre de notre série consacrée à Jean-Luc Godard, avec ce moment aussi mythique que mystérieux où celui qui, après une décennie, a pulvérisé le système et fiché la pagaille dans le cinéma, s'était imposé comme la principale figure de la modernité cinématographique, va prendre le maquis et disparaître en apparence pendant 10 ans. Or, la vingtaine de films réalisés dans la période 1968-1979, encore largement méconnus parce que peu distribués à l'époque comme maintenant, pour ne pas dire dénigrés par certains, sont une étape décisive pour comprendre comment, en passant par le militantisme hétérodoxe et parfois marxiste tendance Groucho, la mise en crise radicale des procédures du cinéma et l'invention d'une manière politique d'en faire, par l'autocritique même de cette pratique aussi, Godard a quitté sa position avantageuse d'auteur pour conquérir celle d'un artiste retiré du monde et plongé dans l'étude de son art, le cinéma, de son histoire et partant de celle de l'humanité tout entière. C'est dans cette période où il n'a jamais cessé d'inventer de nouvelles formes, tâtonnant souvent, parfois jusqu'à l'outrance, expérimentant aussi parmi les premiers ce nouvel outil qu'était alors la vidéo, que s'est forgée sa démarche singulière et solitaire qui donnera bien plus tard Les Histoires du cinéma, dont il avait en fait le projet dès 1973, et aujourd'hui ce Livre d'images. Pour nous accompagner et nous guider dans ce complexe parcours cinématographico-politique, David Farou, maître de conférences en cinéma à l'École nationale supérieure Louis Lumière et auteur de la somme Godard, invention d'un cinéma politique, et le cinéaste, vidéaste et théoricien Jean-Paul Fargier, observateur de premier plan de cette période en tant que membre fondateur de la revue maoïste Cinétique et auteur dès 1974 du premier livre consacré aux aventures du groupe Dziga Vertov. En fin d'émission, Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm, évoquera l'étrange figure de l'écrivaine américaine Shirley Jackson, dont le fondateur The Haunting of Hill House connaît sa troisième adaptation à l'écran avant de s'y incarner prochainement sous les traits d'Elizabeth Moss. Mais pour leur retour à 1967, quand politique rimait avec pop music.
Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao, Mao. Les putains criaient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao. L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mue Mao, Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Bébé fuit et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao, Mao. Diap dénonce, je renonce Mao, Mao.
Et le petit livre rouge qui fait que tout en fait bouge.
Comment Comment twister sur Maos dans La Chinoise de Jean-Luc Godard en 1967. C'est un film avant que Godard ne parte dans l'anonymat, voire la clandestinité, qui est tourné encore à l'intérieur du système cinématographique dominant. Il filme donc un groupe d'étudiants maoïstes, marxistes-léninistes, hein, comme on disait alors, qui sont enfermés tout l'été dans un appartement bourgeois pour analyser la situation politique et décider de verser dans la lutte armée. C'est un film en train de se faire, annonce le premier carton, le premier intertitre. Comme toujours chez Godard, le film n'en manque pas. Alors il y a une sorte de vulgate godardienne aujourd'hui. Godard, le grand prophète, le grand oracle, qui aurait prévu mai 68, dès 1967, qui en aurait fait la critique même, prévoyant aussi l'échec de certains mouvements politiques de mai 67. C'est pas du tout votre avis, David Farou, dans votre livre Godard, invention d'un cinéma politique, vous dites qu'on prête quand même beaucoup parfois à Godard. Ce qui intéresse surtout Godard à ce moment-là, c'est de filmer une nouvelle forme de faire de la politique, forme qu'il a découverte auprès des amis d'Anne Wiazemski, hein, qu'il rencontre aussi à cette époque-là, les étudiants pro-chinois de Nanterre.
Oui, en effet, je pense que même si on peut prêter à Godard tout ce qu'on veut, y compris des qualités de prophète, peut-être que c'est s'empêcher d'apercevoir certaines choses dans les films, de se satisfaire de ce type d'explication, parce que à y regarder de plus près et à regarder le film sans avoir en tête qu'un an après il y a mai 68, on voit surtout Godard ausculter à partir du terrain du cinéma, donc de l'imaginaire, un groupe d'étudiants qu'il fantasme autant qu'il se documente sur ce qui peut les animer. Et le fantasme qu'il projette sur eux vient plutôt de Dostoïevski, Les Possédés, Les Nihilistes Russes, enfin quelque chose d'assez ancien finalement. Et il leur prête entre autres cette volonté de passage à la lutte armée qui va occuper la dernière partie du film, et qui ne coïncide pas vraiment avec le devenir du groupe auquel ont l'air de se lier ces étudiants interprétés par Jean-Pierre Léaud, Anne Wiazemski, Juliette Berthaud, qui était un groupe bien réel, celui-là d'une fondation très récente alors, qui est l'Union des Jeunesses Communistes Marxistes-Léninistes.
L'UJCML.
L'UJCML, qui s'était formé autour d'étudiants du philosophe Louis Althusser, un philosophe membre du Parti communiste, mais dans une position de dissidence ou d'hétérodoxie par rapport au Parti communiste, sous une certaine influence pro-chinoise, disons.
On se souvient que le film n'a pas été très bien reçu, forcément, précisément peut-être par l'UJCML et autres groupes. On se souvient de ce graffiti qu'il y avait à la Sorbonne, Godard le plus con des Suisses pro-chinois. L'ambassade même de Chine est un peu réservée, on dira, sur ce film. Vous arrivez à Paris un peu plus tard, hein, il me semble, Jean-Paul Fargé, c'était en 1969, au début de Vincennes.
Non, moi j'arrive à Paris en octobre 67.
Ah,
et j'ai vu La Chinoise à Avignon en avant-première le 3 août, je pense. Et je suis un fan de Godard et j'aime beaucoup ce film. Et à la fin, il y a des sifflets, des hurlements, des insultes. Je comprends pas. Je sais pas qui crie contre Godard. Qui peut crier contre Godard? Moi, je voyais un film admirable, l'étude d'un groupe qui fait de la politique. Moi, j'étais au PSU, pas très, très informé, mais bon, un peu actif quand même. Et puis, voilà. Puis j'arrive à Paris et je revois le film, voilà, etc. Et à partir de là, je vais suivre toute la production de Godard, mais non pas décalé comme quand je vivais en province, mais quand ça sort. Je me précipite le premier jour pour voir les films, voilà. Donc j'ai des souvenirs comme ça de ce film que j'ai revu peut-être après, mais ce qui est fascinant, c'est comment il fait parler les gens entre eux, quoi, avec des discours tout faits, très idéologiques, et en même temps ça reste vivant par le jeu des acteurs, par l'éclairage, par des petites choses amoureuses entre eux, voilà.
Par des éléments très graphiques aussi, comme beaucoup dans le Godard de cette époque. On se souvient et on sait que le travelling est affaire de morale chez Godard, de ces travelling latéraux, aller-retour sur le balcon avec ses volets peints en rouge ou en blanc et attrapant ce qu'il peut de ces débats qui se jouent à l'intérieur. David Farou.
Oui, les débats, il y en a certains qui sont, au regard des préoccupations des maoïstes de l'époque, totalement décalés. Hein, il projette aussi beaucoup ses propres préoccupations en essayant de les faire travailler par les personnages imaginaires sous l'influence du maoïsme. Qu'est-ce que serait une télévision démocratique ou des questionnements sur l'histoire du cinéma et un renversement de l'image qu'on peut avoir de l'opposition Lumière-Méliès ou finalement le théoricien qu'il convoque à ce moment-là.
Lumière est un peintre impressionniste et Méliès est brechtien.
Et le théoricien qu'il convoque à ce moment-là, c'est Henri Langlois. C'est-à-dire que il y a voilà, c'est, même quand la référence principale ça devient des gens comme Althusser et Mao, le truc qui reste invariant c'est Henri Langlois quand même.
J'appelle dans le vide, je t'appelle au milieu de ma nuit. Mes mots s'en vont rapides, iront-ils jusqu'à toi aujourd'hui? Allô, allô, tu m'entends? Voilà. Est-ce qu'il fait beau temps là-bas sous ton ciel? Ici, même sous la pluie, l'odeur me poursuit d'un peu d'estérel. Je suis dans la cabine, enfermé dans la cage de verre. Et toi, je t'imagine dans un bar qui s'ouvre sur la mer. Allô, allô, tu m'entends? Comment vont Laurent, Jean-Luc et Joël? Dis-moi, tes amis vont-ils toujours près des îles, pêcher les girelles? Ça nous fait quatre unités.
Alors vous voyez,
chaque mot nous est compté. J'appelle sans relâche, réponds-moi, dis que s'est-il passé. Et si tu vois me cache, ce soir avec qui vas-tu danser? Allô, allô, tu m'entends? Est-ce que tu m'attends? Ta bouche est elle? Allô, tu parles trop bas, seras-tu là-bas si je te rappelle? Il faut que je te quitte, d'autres gens s'impatientent dehors. Je t'ai parlé trop vite, je ne t'ai presque rien dit encore. Allô, allô, tu m'entends? Dehors, dans la porte, les gens sont pressés. Dans cette course de fou, le monde se fout. D'un amour cassé. Laissez-moi, japonais.
J'essaye de vitesse, une voie de Porsche, hein.
Ah, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Non, allez, pas de
vous. Vous pouvez pas nous conduire jusqu'au prochain garage?
Non, non, c'est une place. La peine si vous voulez, mais vous, non.
Vous êtes derrière, là.
Non, vous allez vous fusiller, ma gamelle. Ah, mon Dieu, vous allez vous casser, oui. Allez, allez, taillez-vous, je vous bourre la gueule. Allez, taillez-vous.
Mais t'es
marteau,
non?
Oui, c'était bien Jean-Pierre Léo qui chantait du Dalida dans une cabine téléphonique assaillie par Jean-Yann et Mireille Darc dans Weekend en 1967. 1967, année donc très faste pour Jean-Luc Godard. Il réalise quatre films, hein, je crois, au minimum cette année. Un film Égaré dans le cosmos, un film Trouvé à la ferraille, décrivent les deux premiers cartons. C'est une déclaration de guerre au cinéma bourgeois, écrivez-vous, David Farou, dans votre livre, et un film qui fait contrepoids à la chinoise et qui va prendre les grandes vedettes du cinéma commercial de l'époque, du cinéma français, et qui va les emmener dans un parcours complètement apocalyptique, dans une France mise à feu et à sang, littéralement. On est en 1967, là encore.
Oui, on pourrait se dire qu'après la phase de recherche qu'a constituée la chinoise, où il s'agissait, entre autres, c'est pas le seul enjeu du film, mais de s'approprier une réflexion d'Althusser autour du théâtre, et notamment du théâtre de Brecht, en se demandant qu'est-ce que peut être un théâtre matérialiste, et en essayant de traduire qu'est-ce que ça pourrait être un cinéma matérialiste, à travers le film en train de se faire, etc. Et le moment de Weekend est une tentative d'offensive de l'intérieur du cinéma, où il s'agit de prendre des acteurs qui sont identifiés pour avoir joué dans des films que sans doute Godard déteste à ce moment-là, des films de Lautner ou des choses comme ça. Donc Mireille Darc et Jean-Yann, ce qui ne l'empêche pas d'avoir de l'admiration pour les acteurs ou pour leur talent, mais ils incarnent à cet instant-là un cinéma qu'il rejette et qu'il veut combattre. Et en fait, un des projets de Weekend est inclus dans son affiche. C'est que le couple Yann Darc, et le jeu de mots me paraît évident à la lecture de l'affiche.
Connaissant Godard, c'est évident.
Oui. Yann Darc.
Voilà. Ouais. Jean-Yann et Mireille Darc. Le couple Yann Darc est un couple de bourgeois minables va être pris dans un paysage catastrophique d'accidents de voiture après que la leur ait été détruite dans un accident, aéré alors que leur projet du week-end, c'est de précipiter la mort d'un parent pour toucher l'héritage. Donc vraiment quelque chose d'une bourgeoisie lamentable, glauque, minable. Et il s'agit, pour l'incarner, de mobiliser ce qui représente le cinéma à détruire. Voilà. Et au milieu, je pense qu'il y a une séquence clé du film, enfin une clé au sens où elle est centrale. Au milieu, ils vont rencontrer deux éboueurs, un noir et un arabe, chacun parlant au nom de l'autre. Ça va être le moment d'un long monologue politique qui emprunte au Black Panthers, Herbert Rapp Brown, à
Frantz Fanon.
À Frantz Fanon, merci. Et dans un discours d'une radicalité politique qui réclame la lutte armée contre les oppresseurs.
Moi, Jérémy,
Jean-Paul Fargier.
Notre moment clé, une suspension de tout ça, dans la cour d'une ferme, où il y a, après ce travelling énorme, très long, il y a un panoramique à 360 degrés dans une cour de ferme où il y a quelqu'un qui joue du piano. Je crois que c'est Paul Jégoff qui joue du piano. Et où il y a Anne Wiazemski, où il y a Michel Courneau. Il a mis tous ses amis, là. Tout d'un coup, il fait un havre de paix et de beauté. Voilà. Mais pour moi, c'est quand même ça, l'opposition de ces deux formes, le travelling, le panoramique, la violence et l'ataraxie.
Parlons-en de ce travelling auquel vous faites référence, Jean-Paul Fargier, parce qu'il est présenté à l'époque comme le travelling le plus long du cinéma. Mais je parle justement du travelling sur l'embouteillage, où il va mobiliser l'ensemble des rails de travelling disponibles en France, une manière d'empêcher les autres cinéastes au même moment de faire des travelling. Mais avec cette réflexion aussi, au-delà du tour de force de Jean-Luc Godard, de ne pas fétichiser le plan séquence. Donc il va vous faire un travelling extrêmement long, mais régulièrement il va mettre ses intertitres au milieu.
Il fait le travelling le plus long et il l'interrompt au montage. Oui. C'est-à-dire que il y a sans doute le projet au moment de la fabrication, en effet, d'empêcher les autres cinéastes pendant une semaine de pouvoir faire leur propre travelling. et puis au montage, de détruire le geste qui pourrait être un geste du côté du livre Guinness des records, même si je ne sais pas si ça existait à l'époque. Mais oui, c'est ça, de pas vouloir assumer le record du travelling le plus long du monde, 300 mètres, machin, et donc de l'interrompre. Et l'interruption, c'est quelque chose qui est théorisé par des gens qui le nourrissent beaucoup à ce moment-là, par des artistes révolutionnaires, que ce soit Benjamin à propos de Brecht, Brecht lui-même, Ziga Vertov, la question de l'interruption comme procédé qui doit favoriser une réflexivité, tout ça est le pain quotidien des lectures de Godard, disons.
L'interruption, elle va arriver avec ce fameux carton final de Weekend. On n'a pas marqué fin, on a marqué fin de cinéma, alors qu'on interprète aujourd'hui comme l'affichage par Godard de sa volonté d'en finir avec une certaine façon de faire des films. Il y a cette légende sur cette réunion de fin de tournage où il rassemble Raoul Coutard, son chef opérateur, sa script, Suzanne Schiffman, sa monteuse, Agnès Guillemot et autres, leur disant voilà, allez chercher du travail ailleurs, moi j'arrête momentanément pour un moment de faire du cinéma. Alors voilà, c'est raconté par ses biographes, par Richard Brody et par Antoine de Beck. Raoul Coutard le conteste, il dit qu'il ne se souvient pas du tout de cette réunion. Malgré tout, ce film marque la fin d'une époque. David Farrow.
Il marque une coupure en tout cas dans la pratique de Godard. Le film suivant en chantier, quelques jours, quelques semaines après la sortie en salle de Weekend, c'est Le Guet Savoir, qui est une commande de l'ORTF, de la télévision d'État française, que Godard cherche à susciter depuis longtemps, et dont le chantier va être interrompu par mai 68. Donc après, les choses s'accélèrent largement. Mais il y avait effectivement une volonté d'essayer d'aborder la fabrication des films autrement, au moins pour un temps, certainement pas la volonté d'une coupure définitive. Et précisément, il ne pouvait pas se douter qu'il allait arriver mai 68.
Non, mais on pourrait quand même parler de la dernière scène, c'est le front de libération de Seine-et-Oise, avec Calfon, qui joue de la batterie dans des bois, comme ça, Front de Libération de Seine-et-Oise. C'est dérisoire. Un peu comme même la chanson de Guégan qu'on a entendue au début, chantée par Claude Chan, Mao, Mao, il y a de l'ironie. Godard, il se prend jamais au sérieux. Il a toujours fascination pour le discours politique et en même temps, il en éprouve la futilité. et il le signifie.
Mon ami, ma poupougne, reviens.
Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Des images de gens qui discutent, des sons mélangés, plusieurs plans d'une affiche avec Staline et Mao. Pourquoi ces images? Pourquoi ces sons? Pourquoi ce rapport sans cesse changeant des images et des sons? Il s'agissait de parler de quelque chose que nous avons connu en mai 68. Dans les usines, dans les universités, dans les bureaux, dans les réunions de quartier, des camarades se sont assemblés, se sont groupés. Dans la confusion des discussions, ils ont quand même avancé. Comment aujourd'hui en rendre compte? Comment trouver la vérité de cette progression confuse? Et comment la trouver de manière vraie? En fait, très vite, plusieurs camarades ont pris en main la fabrication du film, jouant ainsi par rapport au reste du groupe le rôle de minorité agissante. Lorsqu'après la grève, la social-démocratie, etc., il a fallu parler de l'Assemblée générale, d'emblée ses camarades ont proposé une solution. Faire une Assemblée générale parce que l'affaire était encore le meilleur moyen d'en parler. En faire une dont l'objet soit précisément la continuation du film, c'est-à-dire faire une discussion sur la fabrication des images et des sons qui devraient suivre dans le film ceux de la séquence Assemblée générale. Or, en mai-juin 68 en France, aujourd'hui en France, en Italie, en Espagne, au Mexique, etc., à ces assemblées du peuple en lutte, le pouvoir répond par la répression. Filmer l'Assemblée générale, c'était donc filmer une Assemblée générale qui discuterait de la séquence suivante, qui discuterait d'abord de la fabrication de sons et d'images de répression. Ensuite, l'analyse de cette discussion, son montage, permettrait de saisir le fonctionnement d'une Assemblée générale. Quelle image de répression ont proposé d'emblée les camarades en question? Une affiche de Staline et de Mao recherchée pour meurtre par le Capital. Pourquoi Staline? Parce que pour ses camarades, ce qu'il est convenu d'appeler la question de Staline fait partie, qu'on le veuille ou non, du mouvement révolutionnaire.
Je crois que tu expliques ça.
Je ne dis pas qu'il est Staline, je dis qu'il est accepté par les autres comme Staline. On refuse Staline, mais on est dans une situation de Staline.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Jean-Luc Godard, chapitre 2, les années politiques, avec David Farou et Jean-Paul Fargier. C'est la voix de Jean-Luc Godard, évidemment, qu'on a entendu à la fin de cet extrait. On comprend pas forcément tout le discours politique, vous venez de le dire, Jean-Paul Fargier, de Godard est parfois un peu pataphysique. C'est un extrait de Vent d'Est, évidemment, qu'on a entendu en 1969. C'est improbable western dialectique. Jean-Paul Fargier.
Oui, mais Staline, c'est comme Hitler, quoi. C'est le point Goldwyn, là. Dès qu'on ne sait pas quoi dire, pour couler quelqu'un, on va dire « tu es Staline, mais non, t'es pas Staline, tu es... mais les autres t'acceptent comme Staline, voilà, quoi. » C'est un moment donné où l'abus de pouvoir s'incarne dans un nom, quoi, voilà. Et là, Assemblée Générale, démocratie, mais il y a toujours une voix qui arrive à manipuler les autres, donc... Très vite, on peut dire, c'est un effet de stalinisme.
Alors, on l'entend dans ce film, il y a débat sur le tournage, on va faire donc des assemblées générales pour décider quelle séquence on va tourner, qui va tourner, quel plan, etc. C'est un tournage assez chaotique, vous le racontez, David Farou, dans votre livre. Il y a grosso modo trois groupes, il y a les marxistes-léninistes, donc les maoïstes qui arrivent de France pour tourner en Italie, rejoints par une bande d'anards allemands autour de Daniel Cohn-Bendit, et puis il y a les communistes italiens de Gian Maria Volonté et puis beaucoup de cinéastes qui passent sur ce tournage à l'été 1969. Il y a Marco Ferreri qui est un des producteurs du film, il y a Glauber Rocha, il y a Bertolucci qui passe aussi, Pasolini qui vient une fois mais il est tellement maltraité qu'il ne reviendra plus. C'est le film manifeste du groupe Ziga-Vertov.
Je propose de le voir comme un manifeste, mais... Disons que là, on a fait une petite ellipse, même une grosse ellipse.
On est forcé,
bien sûr. Mais je voudrais juste rappeler, comme une bande-annonce, ce dont on a fait l'ellipse, c'est qu'il y a eu mai 68.
Eh oui.
Et une période où Godard cherche à faire du cinéma, non seulement politique, comme encore en 67 avec La Chinoise et Weekend, mais vraiment militant, au service des causes militantes. Et dans un premier temps, il fait ça de façon solitaire. Au début de l'année 69, il se lie avec un jeune militant marxiste-léniniste, Jean-Henri Roger, sur lequel il faudra qu'on dise un mot quand même.
Oui, quand même très...
Et puis, il y a une rencontre qui a eu lieu depuis un certain temps et qui va produire ses effets en cours de tournage de Vent d'Est. C'est la rencontre avec Jean-Pierre Gorin. Qui va...
Pendant que l'extrait passait, Jean-Paul Fargier a tout de suite reconnu le style de Jean-Pierre Gorin dans la voix off qu'on a entendue.
Oui, parce que C'est une façon, lui c'est un militant d'extrême gauche, c'est un ancien journaliste du Monde, et donc il a une façon de rationaliser, moi je les ai connus, parce que moi j'ai vécu tous ces films au moment où ils sortaient, et certains je les ai vus dans la salle de montage de Godard et Gorin, qui était le noyau le plus actif en dehors, il n'y avait que des acteurs, disons, du groupe Ziga-Vertov. Et donc, nous, Cinétique, la revue marxiste-léniniste, comme ça, qui avait désingué les cahiers du cinéma, du coup, Godard s'était rapproché de nous, Gorin, il nous invitait à voir les films en cours de fabrication ou juste terminés. Donc, j'ai vu Lutte en Italie, vous rappelez aussi ce titre. Dans la salle de montage, j'ai vu Vendès dans la salle de montage.
Pravda,
avec Godard
on va
et
donner
Gorin.
Quelques titres, Vladimir et Rosa.
Vladimir et Rosa aussi, Avenue du Maine dans la salle de montage. Voilà. Et donc, il y a un style Godard très ironique. Il y a un style aussi Gorin très très formaté, mais il a de l'ironie Gorin. Moi, je me rappelle des discussions où ils jouaient tous les deux à être Laurel et Hardy ou Plénet et Solers, parce que ils aimaient les gens de Telken, mais ils se moquaient aussi d'eux. Il y avait toujours de l'ironie. Leur cinéaste préféré, c'était Jerry Lewis. Donc, tout ça, c'est avec, disons, on va faire du Jerry Lewis politique. Et c'était leur idée. Donc, c'est vrai que le style Gorin est repérable. Et d'ailleurs, le film, quand ils se partagent les films, Godard et Gorin, qu'ils ont fait d'abord sous le style le groupe Ziga-Vertov, celui-là, Vendès, est attribué à Gorin. Et non.
Ils signent ensemble Vendès et Lutte en Italie est attribué à Gorin.
À Gorin oui. Et Jean-Henri Roger, le premier film là sur la Tchéco.
Il est co-réalisateur de British Sound, c'est Pravda.
Oui. Et de Pravda. Voilà. Il y a, à un moment donné, le groupe rompt l'anonymat et donne des réalisateurs.
Mais le rôle de Jean-Pierre Gorin est aussi d'apporter voilà quelque chose d'un peu plus solide politiquement à un Godard qui ne maîtrise peut-être pas tous les concepts complexes du marxisme-léninisme, mais c'est aussi une façon, je parlais de ce tournage chaotique de Vendès, de s'emparer après du film au montage, c'est au montage que le film va se faire, et cette voix off qu'on entend, c'est aussi une façon d'avoir le dernier mot dans ces assemblées générales houleuses, David Farou.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un moment de putsch pendant le tournage où Godard réclame à Gorin qu'il rejoigne l'équipe pour faire basculer la majorité dans un film qui fonctionne réellement par Assemblée Générale. À ce titre, vous avez choisi l'extrait absolument significatif de la démarche du film. C'est que tous les matins, il y a une Assemblée Générale où s'empaillent les anarchistes de la bande de Cohn-Bendit, les gens proches d'un parti communiste italien un peu hétérodoxe autour de Gian Maria Volonté, et Godard qui a son petit groupe plutôt marxiste-léniniste qui voudrait donner une direction plus austère au film. Mais pas que austère, hein, parce que c'est un film truffé de truculence et d'ironie. La voix off austère qu'on entend ne rend pas compte de tout le ton de ce film qui a ses moments très drôles aussi. Et évidemment, le putsch qui, sur le tournage, va conduire les anarchistes à déserter peu à peu le tournage pour préférer aller à la plage.
Après avoir prélevé une partie du budget. Voilà.
Le fond de l'affaire, c'est que c'est une commande. C'est le film le plus cher de cette période. C'est une commande qui doit viser la réunion à l'affiche des noms de Cohn-Bendit, Godard et Gian Maria Volonté.
Anne Wiazemski,
c'est-à-dire être l'espèce de superproduction gauchiste un an après 68. Et seulement comme tous ces gens-là sont encore pris complètement dans le climat de 68 au moment de le faire, le tournage devient effectivement très chaotique, très conflictuel. Et même
Godard est à l'hôpital.
C'est Gorin qui est à l'hôpital.
C'est Gorin qui est à l'hôpital,
oui.
Non.
C'est Gorin qui s'évade de l'hôpital pour rejoindre le tournage. Et malgré le coup d'état de Gorin et Godard, il y a quand même une volonté qu'on perçoit dans la scène qu'on a entendue d'inscrire les contradictions politiques dans le film. C'est-à-dire plutôt que de seulement s'accaparer le film pour lui imposer une orientation plutôt qu'une autre, inscrire les contradictions et la voix off qu'on a entendue est le lieu d'une autocritique aussi bien à l'égard des films antérieurs que à l'égard des positions adverses sur le tournage.
Vous ne pouvez pas vous arrêter un peu, non?
Arrêtez quoi?
Le tournicoter comme ça, ça ne sert à rien. C'est énervant à la fin.
Jacques.
À qui le dites-vous?
Vous n'avez vraiment pas l'air de vous rendre compte, hein? Ils vous ont bien enfermé aussi, non?
Eh bien, figurez-vous que pour moi, ce n'est pas un problème.
Tiens donc!
Non, pas un problème. Parce que finalement, je trouve qu'ils ont leurs raisons. Et que ce sont des raisons valables.
Un séquestré qui approuve ses séquestrateurs.
Alors, un petit pas de plus et vous approuverez leur méthode.
Et si avant de parler des méthodes, on parlait des motifs pour une fois? Il y a un quart d'heure, vous parliez à ma femme. J'ai l'ensenti en votre blablabla.
Oh.
Parfaitement, votre blablabla. On ne comprend vraiment pas pourquoi vous vous trouvez ici. Et puis, ne me dites pas que vous êtes assez con pour ne pas le savoir. Hein? Alors, tout va bien?
Écoute, tu as raison, mais c'est pas la peine de s'énerver, hein? Tu penses pas à le convaincre, ce type-là, non?
Madame, je savais pas que vous aviez un mari gauchiste. Oh. À le voir, on le croirait pas.
Oh, que c'est malin. Mais répondez-moi au moins.
Tant que vous n'aurez pas changé de ton, nous ne pourrons pas avoir des discussions sérieuses. En tout cas, pour ma part, je me refuse.
C'est exactement ce que vous répondez aux gars qui vous ont amené ici. Joli résultat.
Vous y êtes aussi, ne l'oubliez pas. Alors, je vous retourne la question. De votre point de vue, hein? Tout va bien, hein? C'est quand même un peu fort, hein? Tout va bien.
Tout va bien, tout va bien, c'est Tout va bien en 1972. Alors, ce n'est pas un film signé par le groupe Dziga Vertov, c'est un film signé par Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin. Vous aurez reconnu les voix d'Yves Montand et de Jane Fonda. Le directeur de l'usine occupée, c'est Vittorio Caprioli. Alors, vous parliez tout à l'heure, Jean-Paul Fargier, de Jerry Lewis politique. Il y a quelque chose qui vient directement de chez Jerry Lewis, du Tombeur de ces dames. C'est cette usine filmée en coupe, avec des travelling latéraux, là encore, qui permettent de faire du montage dans l'espace pour un film qui est majoritairement en plan fixe. Retour apparent de Godard au cinéma commercial, grande vedette, qui sont des emblèmes des acteurs engagés à gauche, un producteur tout à fait dans le système, Jean-Pierre Rassam, qui leur a commandé le film, celui qui produit à la même époque aussi bien les films de Maurice Pialat que de Jean Yanne, et qui va suivre Jean-Luc Godard dans une partie de sa carrière. Qu'est-ce que le groupe Dziga Vertov, ou en tout cas Gorin et Godard, vont faire là? Ils vont refaire les mêmes films que précédemment, mais dans le cinéma commercial?
Non, c'est un petit peu différent quand même. C'est un film, Tout va bien, qui résulte du bilan de la période qui vient de se terminer. Et le dernier film fini avant s'appelle Vladimir et Rosa, qui est une période où les films sont faits pour la plupart en stimulant des commandes de télévision européenne.
Sur le nom de Godard.
Sur le nom de Godard, qui finance le film et refuse de le projeter une fois fini, en général. Parce que ils s'attendent à un film de Godard, ils voient un film marxiste-léniniste, ça ne leur va pas, donc voilà. Et à un moment donné, le bilan, c'est que ils ont réussi à produire de façon assez régulière avec ce système, mais que les films sont pas vus.
Et à l'époque, on disait, il faut que la production commande à la diffusion. Mais quand il n'y a pas la diffusion...
C'est ça. Et il y a un moment quand même où tout ça donne l'impression d'une éclipse de Godard, alors qu'il n'arrête pas de travailler. Et donc, est mis en scène comme un retour au cinéma, alors qu'il ne l'avait jamais quitté, comme ils le disent eux-mêmes dans des entretiens. Tout va bien, produit, coproduit par Gaumont, avec des vedettes qui permettent d'attirer le financement et qui sont en participation.
Comme c'est montré dans le générique de début, le générique de carnet de chèques arrachés les uns après les autres, qui donne le coût de la production. On affiche les conditions de production.
Donc on est dans la continuité du cinéma matérialiste, absolument, qui inscrit ses conditions de production avec les chèques, qui explicite dans la voix off qu'on a besoin de vedettes pour pouvoir faire un film, etc. Et le film est construit un petit peu selon le principe d'une équation qui est prenons deux vedettes d'intellectuels de gauche, petits bourgeois, et plongeons-les dans une situation...
Montand et Fonda.
Yves Montand et Jane Fonda. Et plongeons-les dans une situation, une grève ouvrière avec, disons, des ouvriers révoltés qui se détachent de la CGT et du PCF, donc des ouvriers gauchistes, disons. Et on examine comment être de classe et position de classe, disons la situation sociale et la prise de position politique, se retrouvent en contradiction dans cette situation-là. Donc le film déploie les conséquences de l'immersion de ces deux personnages dans cette grève ouvrière radicale.
Un peu comme ça s'était passé avec Jean-Yann et Mireille Darc dans Weekend. Les dites vedettes sont un peu maltraitées par Godard, peut-être un peu moins, mais enfin tout de même. Et Yves Montand trouve qu'il est pas très bien éclairé parce qu'on lui projette des rushs où il parle dans le noir. Jane Fonda se rend compte que généralement elle est au fond du plan en flou, alors que c'est une ouvrière qui va être au premier plan c'est aussi la légende de Godard sadique avec ses acteurs, traitant ses acteurs comme du bétail qui se joue là. Or, évidemment, c'est tout de même plus compliqué, Jean-Paul Fargier.
C'est aussi une leçon aux autres cinéastes qui, à l'époque, veulent être de gauche, faire des films comme Karmitz ou
Costa-Gavras.
Il y a pas mal d'autres cinéastes qui veulent faire du cinéma de gauche. Série Z, comme on les appelait dans les critique au cahier du cinéma que j'ai fini par rejoindre après avoir quitté Cinétique. Mais là, c'est typique de Godard qui veut faire toujours la leçon aux autres.
Mais c'est le côté, moi je suis pas rentré à l'usine, quoi. Il y a ce film repris du travail aux usines Vendère, on s'en souvient, c'est cette jeune ouvrière qui dit je veux pas retourner dans cette tôle, et c'est Godard qui dit moi j'y suis pas retourné, alors que vous tous qui aux états généraux du cinéma en mai 68 avez eu des projets plus utopiques les uns que les autres, vous êtes tous rentrés dans le système.
C'est ça, c'est l'image que donnait Jean-Henri Roger dans son regard rétrospectif sur toute cette période de Godard. Et d'une certaine façon, on peut dire que Godard est jamais re-rentré dans cette tôle. Ouais. C'est-à-dire qu'il a toujours conservé, l'épreuve de 68, l'expérience, je veux dire, pas l'épreuve au sens de l'expérience, distance pour rester, lui, du point de vue du cinéma, au sens de l'art du cinéma dont il hérite de Langlois. Très indépendant à l'égard de l'état du cinéma, de son industrie, de son milieu professionnel. Et ça dure jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il n'y dérogera plus maintenant.
On a fait comme pas mal de gens. On a pris des images. Et on a mis le son trop fort. Avec n'importe quelle image. Vietnam. Toujours le même son. Toujours trop fort. Prague. Montevideo. Mai 68, France. Italie. Révolution culturelle chinoise. Grève en Pologne. Torture en Espagne. Irlande, Portugal, Chili, Palestine. Le son tellement fort qu'il a fini par noyer la voix qu'il voulait faire sortir de l'image. Dans les ruines de la ville de Karamé, une petite fille du Fatah récite un poème de Mahmoud Darwish. Je résisterai.
Écoute, tu devrais parler d'abord du décor et de l'acteur dans ce décor, c'est-à-dire du théâtre. Ce théâtre-là, d'où il vient de 89, de la Révolution française, et du plaisir qu'avaient les conventionnels de 89 à faire des grands gestes et à déclamer en public leurs revendications. Cette petite fille, là, fait du théâtre pour la révolution palestinienne, évidemment. Elle est innocente, mais peut-être cette forme de théâtre l'est moins.
La voix féminine qu'on a entendue commenter ces images, c'est celle d'Anne-Marie Miéville, qui entame avec ce film, Ici et ailleurs, en 1974, un long dialogue qui dure encore aujourd'hui, dialogue à la fois amoureux, philosophique et artistique. Et les images dont tous les deux parlent, ce sont des images tournées avec le groupe Dziga Vertov, pour le coup, en 1970, en Jordanie, au Liban, filmant les militants du Fatah de Yasser Arafat. C'est un film qui aurait dû s'appeler « Jusqu'à la victoire » à l'époque, et qui n'a pas existé, d'abord parce que la très grande majorité de celles et ceux qui ont été filmés pendant ce tournage sont morts lors du sinistre Septembre Noir, massacré par l'armée jordanienne. Mais ce qui est critiqué ici, on l'entend avec cette scène, où on voit la main, je crois que celle d'Anne-Marie Mieville, montant le son et faisant apparaître l'international sur toutes les images qu'ils ont tournées à l'époque, c'est la critique de ce discours surplombant, un peu des schémas idéologiques plaqués sur une réalité. On n'a pas su voir, on n'a pas su entendre, et vous parlez même d'un moment de honte politique sur lequel revient Jean-Luc Godard, David Farou.
Oui, il y a un moment de honte politique à se rendre compte que une certaine routine militante peut conduire à précipiter le moment de l'explication et à importer toujours la même explication sur des phénomènes différents pour les besoins de l'agitation, pour les besoins de la propagande qui ont leur nécessité hein, aussi et leur rythme. Mais il y a un moment rétrospectif où, avec retard, après que les protagonistes soient morts, Godard, en salle de montage, en montant le son de la deuxième piste plutôt que de la première qu'il avait seulement écouté jusque-là, se fait traduire par Elias Sambar ce dont parle un groupe de combattants, et il se rend compte qu'ils sont en train de parler de leur péril de mort, alors que depuis ils sont morts, depuis la prise de ces images ils sont morts. Et donc là il y a une honte politique à avoir mis tant de temps à écouter le son que lui-même a enregistré. Et ça engendre ce film qui est une autocritique, qui quitte la perspective des routines militantes, mais qui ne quitte pas le projet émancipateur, qui ne quitte pas l'utopie, qui ne quitte pas la volonté de libération du peuple palestinien, qui est encore la préoccupation actuelle de Godard. Je pense qu'il faut jamais perdre de vue un piège que nous apporte l'intimidation culturelle autour de Godard et de son œuvre, c'est que Godard n'est pas un théoricien, c'est un artiste. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas la cohérence d'un discours théorique, il cherche les énoncés qui peuvent le faire avancer dans son travail d'artiste.
Et c'est aussi justement les énoncés qui peuvent le faire avancer dans son travail d'artiste. Ce film non seulement clôt une période, mais en ouvre une autre. C'est les débuts de l'expérimentation Jean-Paul Fargier de la vidéo par Jean-Luc Godard. Il avait acheté un matériel vidéo dès 1968. Hein, on le voit dans ce film allemand dont on avait passé un extrait il y a un an dans notre émission consacrée au cinéma militant. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Pardon. Il a l'équipement qui s'appelle Portapak, je crois, de Sony. Il va filmer des assemblées générales en 1968, il va immédiatement les reprojeter à la librairie Maspero, mais c'est le moment voilà, où il joue un peu avec la boîte, l'outil vidéo. Il y a ces volets vidéo qui vont lui permettre, là encore, de faire du montage à l'intérieur même de l'image, Jean-Paul Fargier. Et vous observez ça à l'époque, puisque vous êtes le premier chroniqueur et théoricien de la vidéo.
On s'est même aperçu qu'on a, utilisé le groupe cinétique, Gérard Leblanc et moi, le même appareil. Il y en avait pas beaucoup. Il y en avait un au Beaux-Arts, à l'UP6, qui était la nouvelle unité de pratique et d'enseignement au Beaux-Arts. Et là, cet appareil a circulé de Chris Marker à Godard, au Roussopoulos, Video Out, voilà. Et puis, cinétique. On a fait quelques interviews avec ça. Puis après, lui, il a acquis plus de matériel. Il a fait un studio, je crois que je l'ai vu, oui, avec Gérard Martin, une collaboration épisodique. Enfin, bon, passons. Et il a, en tout cas, dès qu'il a la vidéo, il voit qu'on peut faire, d'abord, 6x2, c'est de la vidéo. Et il dit, puisque au cinéma, on peut faire des plans que de 12 minutes parce qu'il faut changer de chargeur, de pellicule. Et en vidéo, on a des bobines d'une heure. Donc, je vais faire des plans d'une heure et des discussions avec un paysan, avec je sais pas qui, pendant une heure. C'est le temps, la durée, le temps réel qui l'intéresse beaucoup. Puis, c'était intéressé à la télévision, puisque toujours, il veut réformer la télévision dans... le Gai Savoir, c'est un supposé dialogue à la télévision, sur la télévision. Bon. Donc, il va faire beaucoup d'expériences comme ça, où il peut contrôler lui-même. Là, tout d'un coup, il va pouvoir bouger un bouton et changer la moitié de l'image, par exemple. ou refaire du son sur du son. Moi, je l'ai vu en allant l'interviewer en 69. Il était avec Fromanger, le peintre, chez lui, rue Saint-Jacques. Et on voulait l'interviewer pour Cinétique. Et là, on le voit avec cet appareil que je voyais quasiment pour la première fois. C'était un gros magnétoscope. Et ils étaient en train de rajouter du son, Fromanger et lui, parce que c'était tout ce qu'on pouvait faire à l'époque. On pouvait pas monter, mais on pouvait changer le son. Donc, je voudrais dire que la continuité entre ces expériences techniques, politiques, le discours sur la voix qu'on entend dans Ici et ailleurs, et puis ce que fait Godard aujourd'hui, par exemple, là, je viens d'apprendre que il a donné à des amis qui font un festival de vidéos en Palestine, il a donné non seulement le livre d'images à projeter à Ramallah et à Gaza simultanément, mais il a ajouté un petit film qui s'appelle Sans titre, sans S-A-N-G, où il reprend un discours qu'il a déjà fait sur la Palestine, mais il va changer la temporalité. Là, il disait, il y a plus que quelques minutes, maintenant, il dit, il donne quelques heures de plus, comme ça, il espère encore que la cause palestinienne va pouvoir triompher. Et il le fait en ajoutant sa voix. Et c'est la grande caractéristique. Bon, on avait la voix dans deux ou trois choses que je sais d'elle, de Godard. Et puis là, tout d'un coup, on l'a vu circuler dans les histoires du cinéma. On l'entend massivement et c'est très émouvant dans le livre d'images. Et puis là, dans ce petit film sans titre, il y a aussi sa voix qui vient ponctuer l'espoir.
Raising the lid, I could see Elizabeth's fat white behind on which Sir Lyndon Johnson was projecting an Andy Warhol movie. I was fed up, but I was scared too. American spies were all over the place. As Lenin put it, what now? So to kill time, I picked up a political novel, opened it at random, and began to read. Page 12.
Yes, I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Anastasia cried in vain. Yes, I rode a tank, held a general's rank, when the Blitzkriegs all raged and the bodies sank. Pleased to meet y'all, I hope you guess my name. Ah, but what's so confusing is just the nature.
Sympathy for the Devil par les Rolling Stones, filmé en plein enregistrement de leur chanson phare par Jean-Luc Godard. C'était dans One Plus One en 1968. On ne quitte évidemment jamais vraiment cette année charnière. Merci David Farou. Votre livre indispensable, Godard, invention d'un cinéma politique, est publié aux Prairies Ordinaires. Jean-Paul Fargier, l'entretien Godard Solers que vous aviez filmé en 1984 dans les locaux d'Art Presse est enfin disponible depuis avril. Il a été édité en DVD chez APRES. Après édition. Pour voir le livre d'images de Jean-Luc Godard aux Amandiers de Nanterre, c'est jusqu'au 20 octobre. Il est présenté les vendredis, samedis et dimanches à 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30. Mais attention, la réservation est obligatoire. Et puis vous pouvez aussi au même endroit déambuler dans un parcours de films dont les récents Éloges de l'amour, Notre musique, Film socialisme et Adieu au langage, mais aussi bon nombre de ses œuvres de tout format des années 80 à aujourd'hui. Et puis pour voir et revoir tout Jean-Luc Godard et Anne-Marie Mievy sur grand écran, ce sera à la Cinémathèque française du 8 janvier au 1er mars. Ce sera évidemment l'occasion pour Plan Large d'ouvrir un troisième chapitre de notre feuilleton au long cours. De Godard, il est encore question dans un film québécois, La chasse au Godard d'Abitibi, d'Éric Morin, une fiction qui raconte comme ça la visite du cinéaste au Canada en 1968, en juin 68, après l'annulation du Festival de Cannes. C'est en DVD aux éditions Montparnasse avec entre autres compléments un documentaire concert de Julie Perron de mai à décembre qui avait à l'époque suivi Jean-Luc Godard et Anne Wiazemski qui était venue avec lui jusqu'aux confins de l'Abitibi. En DVD toujours et en Blu-ray chez Gaumont, les versions restaurées son et images d'Une femme mariée et de Weekend avec notamment un témoignage de Claude Miller qui était assistant sur le tournage de Weekend. Et puis dans les salles depuis ce mercredi encore de belles rééditions, le magnifique film d'animation de Jean-François Laguioni, Gwen et le livre de sable, il y a aussi La mort en ce jardin de Louise Buñuel, Le rare souvenir d'enfance d'André Téchiné, puis une rétrospective encore à signaler au Centre Pompidou consacrée à Sébastien Lifshitz. C'est donc au Centre Pompidou jusqu'au 11 novembre et c'est notre chère Charlotte Garçon qui animera la masterclass du cinéaste. Ce sera samedi prochain à 17h. On avait quitté Godard sur Sympathy for the Devil et il est temps à présent d'entrer dans la maison du diable.
Is it over? Do you think it's over? Theo, you're breaking my hand. This is monstrous. This is cruel. It is hurting a child, and I will not let anyone, anything hurt a child. I will not endure this. Things to scare me when it has, and poor Theo, too. Honestly, it feels like she's breaking my hand. I will take a lot from this filthy house for his sake, but I will not go along with hurting a child. No, I will not. I will get my mouth to open right now, and I will yell, I will yell, I will yell.
Arrêté. En 1963, Robert Wise terrorisait ses spectateurs. D'ailleurs, il nous terrorise encore aujourd'hui avec La Maison du Diable, The Haunting, le prototype parfait du film de Maison Hantée, hein, bien avant Amityville et autres Aliens, qui en étaient une déclinaison dans l'espace. Ce film ne sortait pas de nulle part. Il était l'adaptation d'un roman de 1959, The Haunting of Hill House, signé par une écrivaine, Shirley Jackson. Roman qui inspirera rien moins que le Shining de Stephen King et connaîtra deux autres adaptations, Antise de Yann de Bont en 1999 et puis depuis l'année dernière sur Netflix la série The Haunting of Hill House de Mike Flanagan. Et Shirley Jackson elle-même va s'incarner prochainement sur grand écran sous les traits d'Elizabeth Moss, et pourtant rien de moins cinématographique en apparence que la vie très rangée de Shirley Jackson, à en croire l'article que lui consacre la critique et cinéaste Axel Roper dans le nouveau numéro de notre partenaire Sofilm, Fernando Gonzo, article qui convoque toutefois aussi bien le Fritz Lang de La vraisemblable vérité que la Jeanne Dielman de Chantal Akerman ou encore Sofia Coppola.
Oui, on arrivera. Mais c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas, si on présente la vie de Shirley Jackson, on pourrait être étonné d'après à comprendre les choses qu'elle a écrites, parce qu'il y a quelque chose qui relève vraiment de l'ordinaire. Elle naît à San Francisco dans une famille un peu monotone, on va dire, où il va falloir que la petite Shirley commence à écrire des histoires pour s'évader. Et elle devient une espèce de jeune écrivaine de chambre avant de déménager vers la côte Est. C'est là que les choses changent un petit peu. Shirley va faire des études de journalisme, de littérature. Elle commence à fréquenter des cercles universitaires où elle rencontre son futur mari, qui est un critique qui était assez connu par la suite, Stanley Edgar Eman. Et après, ils vont s'installer ensemble au Vermont, où passent souvent par ailleurs des personnalités littéraires importantes comme Salinger ou comme Dylan Thomas. Et c'est là, au Vermont, qu'elle continue à publier des nouvelles. Elle le faisait déjà au New Republic, là c'est au New Yorker aussi. Des publications qu'elle va alterner avec des romans. Et si on veut résumer le total de son œuvre, de sa production, ce serait 1200 nouvelles, 6 romans, quelques livres pour enfants et des chroniques familiales jusqu'à sa mort. en 1965, où elle nous quitte à 48 ans, penant sa sieste. Même ça, ça a l'air banal. Donc rien n'est choc dans cette vie des romancières reconnues, voire admirée en effet, surtout par Stephen King, qui la tient pour la plus grande écrivaine de la peur. Mais si on approfondit dans cette vie, il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux et qui permet de comprendre aussi l'étrangeté de l'œuvre. Axel Roper, dans les textes, elle commente quelques portraits de Jackson et elle dit y voir un corps massif, asexué, des yeux hypertrophiés, des lunettes incongrues, un regard totalement opaque, comme si la force toxique de ses idées avait boursouflé son visage. Autrement dit, docilité des apparences tranquillement accolée à de la monstruosité. Ce qui peut être vu aussi dans ses œuvres. Il y a toujours un espèce d'équilibre bizarre entre placidité et barbarie. Robert pointe un peu cette alternance, par exemple, dans Le Cadran solaire, où une famille doit tenir malgré des prophéties inquiétantes. Dans Nous avons toujours vécu au château, qui a été aussi adapté au cinéma, on attend de le voir en salle. Où un massacre a lieu dans une demeure magnifique. Dans La possibilité du mal, où une délicieuse vieille dame envoie des lettres anonymes aux gens de la ville. Donc, tranquillité des apparences, vie quotidienne retranscrite minutieusement, et puis, d'un coup, par surprise, une chute d'une brutalité inouïe. Robert résume comme ça l'œuvre de Jackson en indiquant qu'en effet, c'est presque le contraire de Stephen King, ce qui est un peu étonnant. Et pourtant, Jackson a même dépassé King en termes d'effroi et panique généralisée en 1948 avec une nouvelle qui s'appelle « La loterie ». On raconte le récit de la préparation du jeu de cette loterie dans une communauté où tout semble absolument normal. Et puis il y a quelques lignes finales qui changent tout, qui dévoilent la nature horrible de cette loterie. Quelques lignes qui mettent à la lumière la pulsion de meurtre qui habite notre société et qui plonge le lecteur dans le désespoir le plus absolu, celui de ne pas vraiment comprendre de quoi la nouvelle parle, tout en étant certain d'y trouver une noirceur abyssale, de laquelle il est impossible de ressortir. La loterie, provoque un tel choc que le New Yorker vit par la suite le plus fort taux de désabonnement de son histoire. Une lectrice avoue même avoir pensé au suicide après avoir lu la nouvelle, en prenant son bain, et je cite la lettre parce que c'est très beau, elle dit « J'ai dû résister à la forte tentation de me laisser couler la tête sous l'eau afin d'en finir une fois pour toutes. » Et c'est drôle parce que la tentative de suicide était à l'origine de la toute première nouvelle écrite par Jackson, qui s'appelle Janice, qu'elle écrit quand elle a 20 ans. Et cette noirceur, elle est toujours là dans son œuvre liée à cette histoire domestique, d'écrivaine domestique. Elle est souvent enfermée à la maison alors que son mari a une vie publique des critiques littéraires assez active. Elle reste enfermée, dépressive, elle grossit, elle fume beaucoup trop. Elle élève ses 4 enfants dans cette maison, à un enchaînement à une vie domestique qui s'est traduit peut-être dans l'abondance des récits des réclusions dans son œuvre aussi. Et Axel Roper, là, va oser une hypothèse, que je cite. « Jackson appartient peut-être à la catégorie des écrivaines mères au foyer, engluées par l'aliénation domestique qui impose aux femmes de répéter jour après jour des gestes sans intérêt, coudre, repasser, faire les courses. » Mauvais infini que seul un geste brutal peut interrompre, sortir un couteau comme Jean Dielman ou son stylo comme Shirley Jackson. Et c'est pour ça que Axel Roper propose à quel cinéaste, Sofia Coppola, qui a aussi cette affection pour les jeunes filles futées et étranges, une froideur de ton quelquefois déconcertante et même antipathique, et qui serait peut-être la cinéaste idéale pour adapter Shirley Jackson au cinéma.
Merci Fernando Gonzo pour tout savoir sur l'inquiétante Shirley Jackson, revue par Axel Roper. C'est dans le nouveau Sofilm avec un Brad Pitt Mimi tout plein en couverture. Brave Pitt, vous avez osé. Et aussi une interview de Al Hartley à l'intérieur. Un plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Valérie Lavalard. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Séverine Cassard. La semaine prochaine, plan large sur le cinéaste anglais. Oui, ça existe, Jean-Luc Godard, un cinéaste anglais. John Boorman, nous serons parlerons avec Michel Simon qui lui consacre son nouveau livre « Bormann, un visionnaire en son temps » et Entebbe qui nous dira quelques mots de quelques films de Luigi Comencini parus en DVD. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.